Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro. Avec vous pour la prochaine heure, pour parler, évidemment, c'est dans le nom, c'est dans le titre, de bande dessinée de 9e art, comme on le fait depuis presque 11 ans. Toujours un plaisir, évidemment, de vous retrouver. Et une belle émission aujourd'hui. Là, on ira vraiment dans deux axes radicalement différents. Je ne fais même pas semblant qu'il y a un pont, qu'il y a un lien entre les deux. Il n'y en a pas, mais ce sera intéressant. Alors, dans la première moitié de l'émission, on va aller à la rencontre de Michel Giguère en route vers la prochaine rencontre des rendez-vous de la BD. Et ce mois-ci, dans le fond, il s'attarde à un sujet que je trouve diablement intéressant, même si la plupart de toutes ces thématiques sont intéressantes, mais ceux-là, là, c'est vraiment plus de mon côté, puisque pour moi, c'est des sujets qui nous amènent à développer un peu notre grammaire BD, si on peut dire. Donc, l'an dernier, dans le fond, il nous avait parlé de la mise en scène de la bande dessinée, de la mise en case, si on peut dire. Et là, il va nous parler de mise en séquence. Donc, comment on articule, dans le fond, les cases dans les relations des unes aux autres. Quelles sont les façons, les outils, les manières par lesquelles les auteurs BD peuvent aborder cette mise en scène-là, ce montage de la séquence visuelle. Alors, c'est ce qu'on va aborder en sa compagnie. Il y aura beaucoup de données, beaucoup d'informations, je pense, qui vont être générées et ce sera assurément intéressant. Donc, on vous invite à rester avec nous, évidemment, dans quelques instants. Là, on va plonger avec lui sur ces thématiques. Et en deuxième moitié d'émission, on va aller vers le tome 4 d'une série qui s'appelle « Le Bouddha brisé ». C'est une série d'SB qui est désormais auto-éditée depuis les deux derniers tomes. Et depuis le premier tome, dans le fond, on a pris l'habitude de faire le point avec l'auteur donc sur son travail, sur sa BD, sur l'évolution de sa pratique également. Et on ne fera pas exception avec ce quatrième tome. Donc, on consacrera une bonne demi-heure là, à cet album-là, à sa mise en création, mais également, on prendra le temps d'aborder aussi le socio-financement qui l'accompagne et les approches d'auto-édition qu'il met en place tranquillement aussi. Parce que dans les dernières années, on a beaucoup parlé, dans le fond, d'apprentissage du médium, parce que c'est une série à travers laquelle on le voit vraiment évoluer comme auteur. Mais en parallèle, désormais, on va le voir aussi évoluer comme auto-éditeur. Alors voilà, c'est nos sujets pour cette semaine, ici à La Vie en BD. En hiver dernier, Michel Giguère a présenté un rendez-vous de la BD sous le titre « Pourquoi on embarque les ficelles de la mise en scène ?» Et je le mentionne d'ailleurs, en fait, c'est toujours visible ce rendez-vous en rattrapage sur la page Facebook de la Maison de la littérature. Et comme à l'habitude, on croise Michel en amont d'un rendez-vous de la BD et le prochain, c'est le 10 novembre, encore une fois à la Maison de la littérature, encore une fois en mode hybride, donc entre présence et diffusion sur le web. Et ce sera en quelque sorte la suite, puisque ça s'intitule « Pourquoi on embarque », donc la mise en séquence. Et je le disais, Michel est avec nous au micro de La Vie en BD pour nous en glisser un mot. Michel, d'entrée de jeu, bonjour.
Salut Raymond, merci de me réinviter encore et encore.
Toujours un plaisir, évidemment. Et Michel, en fait, si on regarde là, sur la mise en séquence, donc tu as réparti ton exposé selon que tu parles de la mise en scène ou de la mise en séquence, si on distingue l'un et l'autre. Donc, j'aurais envie de te demander d'entrée de jeu de quoi il est question de façon concrète. Là.
Oui, parce que ça ne l'est peut-être pas aux yeux et aux oreilles de tout le monde qui nous écoute. Alors d'abord, ce n'est pas coupé au couteau. Hein. Les deux exposés se chevauchent, mais surtout, ils se complètent. Et c'est le cas aussi des notions de mise en scène et de mise en séquence. D'abord, l'expression « mise en scène », prise dans son sens large, ça englobe la mise en séquence. Disons que le printemps passé, il y avait principalement été question de composition de l'image, alors que mercredi prochain, on va se pencher sur les mécanismes, les procédés qui agissent et que le bédiste met à contribution dès qu'une deuxième image suit la première, puis une troisième, et ainsi de suite. Bref, j'ai consacré une première diapo-conférence à la case prise individuellement, et puis en voici une autre sur la succession des cases et comment elles s'articulent les unes aux autres.
Et tu as utilisé le terme « composition de l'image ». Alors, peut-être petit moment, définition.
Oui, voilà autre chose. La composition de l'image, qu'est-ce que c'est ça? Alors oui, ça mérite un essai de définition. La première fois, là, il y a 6-7 mois, en fait, On s'était concentré sur l'image, comme je disais. Il avait été question des, appelons ça, les éléments constitutifs de la case, c'est-à-dire ses composantes, qui sont de trois ordres. C'est facile. C'est les personnages. Deuxièmement, les décors, les accessoires. Parfois, le décor est simplement suggéré par des objets, là. Et troisièmement, le texte, qui prend lui-même plusieurs formes. Il y a des bulles de dialogue, il y a les récitatifs pour les interventions du narrateur, il y a des nuages de pensée, des onomatopées, etc. Je m'étais attardé sur l'organisation de ces composantes-là, sur l'aménagement de ces éléments constitutifs, une opération qu'on appelle la composition de l'image. Alors, la composition de l'image est elle-même une composante de la mise en scène et, en fait, une de ses principales composantes.
Et à la limite, en fait, pour reprendre un terme d'ailleurs que tu as déjà utilisé, on pourrait parler de tout ça comme étant la boîte à outils du BDiste.
Oui, puis la métaphore, je sais, peut sembler enfantine, mais ça demeure pertinent, je trouve. Le BDiste utilise des instruments matériels ou informatiques, à commencer par du papier, un crayon et surtout une efface. Et ça va jusqu'à la tablette graphique, divers logiciels, etc. Mais il utilise également des outils, disons, virtuels, abstraits, à savoir des notions, des procédés graphiques et narratifs, parce qu'en BD, les dimensions graphiques et narratives sont intimement liées, indissociables. Alors, mes deux diapo-conférences tournent beaucoup autour de cette notion-là d'outils et des usages qu'on peut en faire.
Et si on précise un petit peu plus, là, un petit récapitulatif de quelques outils dont il est question.
Bon, alors, il y en a certains qui sont assez faciles à comprendre. Je commence par eux autres. Par exemple, l'élasticité des cases, c'est-à-dire la possibilité d'étirer les vignettes à l'horizontale aussi bien qu'à la verticale. Il y a aussi le cadrage avec son échelle de plan qui va du très gros plan au très grand ensemble, c'est les noms qu'on leur donne. Et l'échelle des plans va même jusqu'à découper les personnages en tranches, si je puis dire.
Et quand on parle de notion de cadrage, on fait tout de suite, je pense, le lien avec la photo. N'importe qui a pris une photo, minimalement, on réfléchit à la notion de cadrage.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis qu'il y en a qui sont plus faciles à appréhender là, par le grand public. Ensuite, il y a l'avant-plan et l'arrière-plan. On peut jouer avec tous ces plans-là dans la profondeur. La profondeur de champ, elle implique la perspective, qui est un peu plus technique, ainsi que les angles de vue. Les angles de vue qui sont latéraux ou verticaux. Grosso modo, là, on va diviser les angles latéraux en trois grands types. Encore là, c'est facile. C'est l'angle de face, de profil, et puis tout ce qui est entre les deux qu'on va communément appeler les angles de trois quarts. L'angle de trois quarts, il est particulièrement intéressant parce qu'il crée une composition en diagonale, une espèce de raccourci visuel, un genre d'effet d'optique avec l'effet de la perspective.
Et quand on parle des angles verticaux, là, on peut parler d'angles en vue de plongée ou en contre-plongée.
Voilà. Et il va sans dire que les angles de vue, quand ils sont accentués, là, dynamisent beaucoup la mise en scène. Mais ça va plus loin que ça même. Il y a 6 mois, on a vu, exemple à l'appui, que les angles pouvaient générer une charge émotive. Ben oui, une charge subjective, faisant apparaître les personnages menaçants ou encore dominants quand ils sont vus par en dessous, ou au contraire, les faire paraître vulnérables, comme si la fatalité pesait sur eux quand on les voit du dessus. Un angle de vue inhabituel, une perspective exagérée ou déformée va même engendrer un sentiment d'inconfort, de malaise. Et parlant de subjectivité d'une image, ben, il y a un autre outil du BDiste qui est le plan subjectif, quand le point de vue dessiné reproduit celui d'un personnage. Comme si le lecteur, la lectrice, voyait la scène à travers les yeux du personnage. Il y a aussi le hors-champ, c'est-à-dire tout ce qui se trouve en dehors du champ de l'image, en dehors du cadre, et qu'il faut quand même faire exister. Sans oublier ce qui se trouve à l'intérieur du cadre, mais qui, pour toutes sortes de raisons, est masqué, caché par le metteur en scène.
Et il y a d'autres outils virtuels du BDiste qui s'appliquent aussi à une succession d'au moins deux cases. Et donc, dès que les deux images se succèdent, ben, ça vient toucher la deuxième partie. Donc, là, on tomberait dans la diapo-conférence de mercredi soir prochain. Et donc, là, on commence à parler de mise en séquence.
Voilà. Mais je vais quand même, comme je le fais avec toi aujourd'hui, là, faire quand même un récapitulatif de l'autre présentation. Alors, les outils du BDiste qui impliquent une suite de deux images et plus, moi, je vais les baptiser outils séquentiels. Ça va être plus éloquent, évidemment, mercredi prochain avec les planches qui sont projetées sur grand écran, mais je vais quand même décrire un premier outil séquentiel à tes auditrices et auditeurs. Alors, à l'occasion, un dessinateur va segmenter une case très large en deux ou trois portions. En divisant le décor comme ça, un décor que le personnage peut traverser d'une case à l'autre, eh bien, le BDiste va en quelque sorte reproduire le mouvement panoramique qu'on appelle, qui est utilisé au cinéma, quand la caméra pivote sur son axe ou plus concrètement, le pivote sur son trépied. Un autre outil séquentiel se rapporte à la notion de cadrage dont on vient de parler. Par exemple, imaginez que le cadrage de la première case est un plan rapproché ou plus simplement, disons, un plan épaule. Et puis qu'ensuite, on cadre la deuxième case, on la cadre plus serrée et on va obtenir un gros plan sur le visage, seulement le visage. Alors, lorsqu'on assemble ces deux images-là, ces deux cadrages-là, eh bien, ça donne une suite, une combinaison de deux cadrages d'un même sujet. Alors, dans ce cas-ci, on va reproduire un mouvement de caméra, encore une fois, au cinéma, qu'on appelle le travelling, ou plus plausible, un zoom avant et zoom arrière. Eh bien, c'est sûr qu'au cinéma, le zoom est continu, alors qu'en BD, il va être nécessairement subdivisé, morcelé. Il y a des ressemblances entre le cinéma et la BD, mais il y a aussi bien des différences. Sinon, en fait d'outils que la bande dessinée partage avec le cinéma, je pense aussi au champ contre champ, qui est, disons, je pourrais dire, le champ contre champ est au point de vue ce que le pile ou face est à une pièce de monnaie ou le virage en U au code de la route. Là, le champ contre champ, c'est le point de vue opposé du champ initial, comme si le lecteur tournait sur lui-même à 180 degrés. Le champ contre champ est beaucoup utilisé pour les scènes de dialogue, particulièrement au cinéma et à la télévision. Ce que je veux dire, c'est que vous voyez deux personnages qui dialoguent face à face et puis la caméra, ou si on préfère en ce qui regarde à la BD, on va parler de point de vue, il n'y a pas de caméra. Alors, le point de vue passe du visage de l'un au visage de l'autre, etc., aller-retour. On va parler aussi du principe de regardant-regarder, quand un champ contre champ permet au lecteur de voir ce que contemplent les personnages. Ils sont en train de regarder quelque chose, et puis l'instant d'après, on voit à travers leurs yeux. Le procédé du regardant-regarder, ça, c'est pas rare en BD. Par contre, les scènes de dialogue en champ contre champ, ça, j'ai vraiment eu la misère. J'ai dû feuilleter un tas d'albums pour trouver quelques exemples à montrer. On ne voit pas souvent, en fait, un seul interlocuteur à la fois dans une case. On peut possiblement expliquer ça par le fait qu'en bande dessinée, la représentation, évidemment, est en dessin, et puis on est moins porté à vouloir se rapprocher au plus près de visages qui sont dessinés. Les dessinateurs sont peut-être moins portés à être en gros plan, surtout si leur style est le moindrement caricatural ou très dépouillé.
Et à ça, si on continue de jouer un petit peu avec des processus et des ponts avec le cinéma, on pourrait penser, j'imagine, au raccord.
Oui, une autre notion que je dois expliquer en simplifiant un peu, je dirais que le raccord consiste à répéter un élément dans deux cases successives ou encore à placer dans la seconde case un élément qui fait écho à quelque chose qui se trouvait dans la case précédente. Il peut s'agir d'éléments visuels ou, par exemple, une question qui va être suivie de la réponse, mais la réponse est dans la case suivante. Ça crée un lien. Alors, en arrimant deux cases, parfois même, il y a des raccords qui vont relier deux planches. Eh bien, c'est comme si on les accroche, c'est comme si on accrochait les wagons d'un train les uns aux autres. Alors, le raccord en vient à favoriser la fluidité de la narration et en même temps facilite la compréhension de l'action.
Et à ça, si on reste un peu dans la notion de case en case, évidemment, il y a aussi la notion de l'espace entre les deux. Et dans ça, on peut imaginer un outil assez fondamental dans ces successions de cases-là qui va être l'ellipse.
L'ellipse, oui. Oh là là, mercredi prochain, là, avant de me lancer là-dedans, je vais chauffer l'assistance et aussi l'auditoire d'internautes avec des outils fondamentaux. Les ellipses. Les ellipses sont les sauts dans le temps qui surviennent entre deux cases. On qualifie parfois la BD d'art du raccourci. On dit pas mal la même chose en l'appelant aussi l'art de l'ellipse. L'ellipse est au cœur de l'étape la plus décisive du processus de création d'une BD, étape baptisée le découpage. Un récit, c'est constitué de séquences, si vous préférez des chapitres, des séquences qui sont elles-mêmes constituées d'une suite de scènes, des scènes qui sont liées entre elles, c'est ce qui fait que la séquence est une espèce d'entité dans le récit. Et puis, chacune de ces scènes-là va être à son tour découpée en un certain nombre, disons, d'arrêts sur image ou de moments. Et chaque moment équivaut évidemment à une case. Idéalement, une scène sera découpée en un nombre optimal d'images. Et c'est là le travail du BDiste, de celui qui nous raconte l'histoire, de voir quel est le nombre optimal. Dès qu'on place une vignette à la suite d'une autre, on génère une ellipse. Chaque vignette supplémentaire va générer à son tour une nouvelle ellipse. Tu sais, le grand BDiste américain Will Eisner, qui était aussi un pédagogue, il a enseigné la bande dessinée, il a aussi publié des ouvrages sur le langage de la BD. Il a notamment mis de l'avant l'expression « art séquentiel ». Eh bien, il faudrait ajouter aussi « art saccadé ». Encore une fois, pour expliquer ça, établissons un parallèle avec le cinéma, cette autre forme de narration par l'image, c'est pour ça qu'on parle d'eux. Aujourd'hui, pour l'essentiel, un exemple, rapportons-nous à la bonne vieille pellicule du film traditionnel. La pellicule, elle était segmentée en photogrammes. Dans une caméra, comme dans un projecteur, quand on faisait tourner la bobine, il y a 24 de ces photogrammes-là qui défilaient à chaque seconde. 24 images secondes. C'est à partir de cette vitesse de défilement-là que l'œil humain discerne plus les séparations entre chaque photogramme. C'est à partir de cette vitesse de défilement-là que le mouvement de ce qui bouge sur l'écran acquiert une fluidité qui paraît naturelle au spectateur, à la spectatrice. Dans les films des premiers temps, si on a l'occasion de voir des vieux films, tout était en accéléré, tout est saccadé, parce qu'on filmait alors en 18 images secondes. Ce n'était pas suffisant. Alors, si ça donnait un résultat saccadé, imagine en BD. C'est un peu comme si un BDiste, pour raconter son histoire, conservait seulement un photogramme par-ci, par-là. Il en conserve en fait si peu que chacune des images doit être porteuse de narration. Elle doit être claire, elle doit être bien composée et aussi elle doit être impeccable. C'est ce dont on a parlé pendant 2 heures la saison dernière. Et de plus, il faut que les cases soient bien arrimées les unes aux autres et qu'elles s'enchaînent avec tout autant de clarté et de fluidité. Et là, il est question de mise en séquence, ce dont je vais parler mercredi soir.
Donc, à travers tout ça, il faut, entre autres éléments, que l'auteur, que le BDiste choisisse constamment ce qu'il montre et ce qu'il ne montre pas.
Exact, oui, c'est tout à fait bien dit. Et ce faisant, il doit suggérer à la lectrice, au lecteur, ce qui se passe entre chaque case. Il doit l'aider à figurer tous les gestes, tous les déplacements, etc., qu'il ne représente pas en dessin, qu'il ne nous donne pas à voir. Et ça représente tout un défi de se mettre dans la tête du lecteur, de la lectrice. Et puis en même temps, l'intercase, ou appelons ça la gouttière, ou l'espace inter-iconique, en tout cas l'espace entre les cases, c'est le lieu de tous les possibles. Avec du savoir-faire, avec de la finesse, un BDiste peut tourner ce qui paraissait comme une limitation, une contrainte, voire un handicap. Il peut le tourner en un espace générateur de drôlerie ou d'accélération ou de drame ou de bien d'autres effets narratifs. Et tu sais, il y a Sacha Guitry qui écrivait « Lorsqu'on vient d'entendre un morceau de Mozart, le silence qui lui succède est encore de Mozart. » Et vite entre deux cases de Bill Watterson, est aussi l'œuvre de Bill Watterson.
Et à ça, ben, j'imagine qu'on ouvre la porte aussi, quand je t'entends parler, vers d'autres outils, qu'on pense au découpage, qu'on pense au montage. Il y a une belle complexité dans tout ça.
Oui, ben, là, c'est sûr que les expressions découpage et montage sont souvent amalgamées, sont souvent confondues. Moi, je les distingue vraiment. Et puis, en fait, oui, c'est vrai, tu as raison, ça peut devenir complexe tout ça, mais à mon avis, c'est la beauté de la chose avec les rendez-vous de la BD, parce qu'en 90 minutes, j'ai la chance de pouvoir entraîner l'auditoire de plus en plus loin dans la réflexion sur un médium qu'ils aiment et qu'ils connaissent quand même pas mal, et les inviter dans l'exploration de son langage, de sa grammaire, parce qu'il est carrément question de grammaire et de syntaxe quand on se penche, par exemple, sur le montage, qui peut se définir ainsi. C'est l'assemblage d'images au cadrage et ou aux angles de vue différents. Le montage, je le dis autrement, c'est l'articulation de deux cases qui ont des cadres ou des angles de vue différents. C'est un autre outil de la mise en séquence, qui est un outil fortement structurant, le montage. Vous savez, on entend souvent que la bande dessinée, c'est le mariage du texte et de l'image, hein? On dit souvent ça. Eh bien, mercredi soir prochain, excuse-moi, je voulais surtout dire que prochainement, je voudrais mettre au programme un rendez-vous, ça c'est pour mercredi prochain, mais j'aimerais ça faire ça à un moment donné sur les BD muettes qui n'ont pas de texte. Est-ce à dire que ce soir-là, il ne sera pas question de bande dessinée, puisque la bande dessinée est censée être le mariage de l'image et du texte? Ben non, ce qui définit le 9e art, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus subtil. Alors, à mon avis, mercredi soir prochain, oui, là, on va être en plein dedans. On va aller au cœur de ce qui est vraiment, à mon sens, le fondement, la spécificité de la BD, à savoir son mode de mise en séquence. Cette façon unique avec laquelle les cases s'articulent pour engendrer la narration, et tout ça par le biais du découpage et du montage.
Et Michel Giguère, si je regarde tes notes, outre ces thématiques-là, ces sujets-là, ces termes-là, cette grammaire-là, il va être aussi question de narration parallèle et alternée, de l'art de la suggestion, des facteurs qui ont influé sur la mise en scène au fil de l'évolution du 9e art. On pense au format, au contexte de publication.
Oui, je vais faire un petit aspect comme ça, plus historique. Et bon, par rapport au format publication puis au contexte de publication, on n'a qu'à penser à la forme feuilletonesque, le feuilleton qui a jadis eu une incidence considérable, tant dans les quotidiens avec les comic strips à suivre, ça c'est un phénomène essentiellement américain, que dans les magazines franco-belges des belles années, là, où les récits longs étaient initialement publiés en tranches de 2 à 4 planches par semaine, et puis plus tard, c'est devenu des mensuels, donc c'était 2 à 4 planches par mois, eh bien, les éditeurs insistaient pour qu'on y retrouve 2 ingrédients gagnants, densité et rebondissement. Donc, plein de cases exiguës où il fallait en plus placer pas mal de textes, là. À partir du tout début des années 90, le manga va déferler sur le marché francophone. La BD japonaise a sans nul doute contribué à assouplir les contraintes de format, à ouvrir la voie à une plus grande variété dans la façon de raconter. C'est à peu près impossible de mesurer comment et puis à quel point, mais ça me semble indéniable que le manga a exercé une influence notable sur une portion de BDistes occidentaux. Et puis, en fait, ça ne fait que commencer.
Et Michel, tu parlais tantôt de strip. J'imagine que s'il y a une autre forme qui joue beaucoup sur la mise en scène et la mise en séquence, c'est aussi le gag d'une demi-planche, le gag d'une planche.
Oui, à vrai dire, le gag court, comme tu dis qu'il s'agisse d'une planche, d'une demi-planche ou même d'un strip, là, une bande, ça appelle bien souvent une mise en scène minimaliste. Pour que le gag fonctionne, autrement dit, pour que la chute soit comique, il faut en bonne partie que l'attention du lecteur ne soit pas divertie par toutes sortes d'angles de vue insolites puis toutes sortes de changements de cadrage. Autrement dit, la plupart du temps, dans un gag, il n'y a pas de montage.
Alors, en fait, Michel, c'est un premier tour d'horizon de tout ça. Évidemment, je pense que Ça nous met en appétit, ça nous donne envie de plonger un peu plus avant, justement, avec les supports visuels, avec les outils associés, soit à la présentation sur place, soit à la web diffusion. Et je rappelle que pour ça, ben, c'est le 10 novembre prochain à 19h, en présentiel sur la scène littéraire de la Maison de la littérature ou en web diffusion sur la page Facebook de l'institution. Donc, et c'est une diapo-conférence qui va rester en rattrapage. Et j'en profite aussi pour rappeler, je l'ai mentionné pour la première partie de pourquoi on embarque, mais c'est le cas aussi des autres rendez-vous de la BD depuis le début du contexte pandémique, qui sont visionnables en tout temps. Et également, il y a des bibliographies là, qu'on peut retrouver sur le site de la Maison de la littérature ou également là, autour de ces conférences. Alors, je pense qu'on lance l'invitation à poursuivre cette exploration et cette appropriation-là de la grammaire de la BD, j'aime bien l'expression, avec toi. Michel Giguère, merci beaucoup.
C'était un plaisir, Raymond.
Toujours dans le cadre de la vie en BD, on plonge maintenant dans le chapitre 4 du Bouddha brisé, un album qui a été publié tout récemment par SB. Et c'est un peu un rendez-vous, en fait, je pense qu'à chaque tome, à chaque chapitre, on a eu l'occasion d'échanger avec l'auteur. Alors, on ne fera pas exception pour le quatrième. SB, bonjour.
Salutations, merci de me recevoir.
Et SB, d'entrée de jeu, en fait, depuis les deux derniers chapitres, évidemment, tu es en dehors des structures éditoriales traditionnelles. On fait ce qu'on appelle de l'auto-édition. Yes. Tu le fais également avec du socio-financement. Et je pense que j'ai envie de commencer avec ça parce que j'imagine que pour un auteur qui, justement, tranquillement fait sa place, d'avoir accès au socio-financement permet d'un côté d'aller chercher un peu de capital pour faire l'album, mais dans ton cas, en plus, la campagne de socio-financement a dépassé largement tes espérances. Je pense qu'en quelques semaines, quelques jours, on était pratiquement à objectif atteint, là.
Oui, je vais pour mettre un peu dans le contexte. En 2018, quand j'ai fait le socio-financement pour le chapitre 3, ça m'a demandé environ 3 semaines pour atteindre le 100%. Mais là, avec le chapitre 4, il s'est passé quelque chose que j'attendais pas du tout. C'est-à-dire qu'en 8 jours, le financement a été entièrement trouvé. Puis on a eu un 10-11% de plus, sans parler de la bourse que le Conseil des arts de Montréal m'a octroyée. Donc, ça a été une super belle run là, à ce niveau-là. Ça m'a permis de vraiment pouvoir financer la BD en édition régulière, en édition limitée, qui, en même temps, fait office de 5e anniversaire, étant donné que la BD a déjà vu le jour depuis 2016. J'avais réalisé en janvier que ça faisait déjà 5 ans que cette série-là existe. Et ben, c'était ma manière, en même temps, de célébrer, si on veut, avec le lecteur, puis le lectorat, en les remerciant de leur fidélité de cette façon-là, en leur faisant un petit quelque chose d'unique. Donc, le fait que la campagne de socio-financement a été un tel succès, ben c'est en même temps quelque chose qui m'a énormément surpris.
Et j'imagine une heureuse surprise aussi, parce que c'est à ce moment-là qu'on réalise, comme auteur, que ben, OK, il y a une communauté qui est en train de se bâtir autour de ma série, qui a un certain lectorat qui les attend, ces tomes-là, et j'imagine qu'en parallèle, on se dit, ben c'est des gens qui peuvent aussi dire, ben oui, ben justement, tombe sur cette série-là, qui replonge vers le premier tome, qui amène peut-être même à rééditer le premier tome pour répondre à des nouvelles demandes.
Ben éventuellement, c'est quelque chose que je regardais là, pour justement rééditer les 3 premiers tomes, en fait. C'est que là, il m'en reste encore des anciennes éditions, mais pour l'instant, tant qu'il m'en reste, c'est pas quelque chose que je vais nécessairement plancher. Je deviens un peu éditeur indépendant à mesure que la demande arrive. Donc, c'est un défi de tous les instants. Ça a d'ailleurs été cette année encore une grosse série d'expériences, étant donné qu'il a fallu que je me fasse un nouveau logiciel de montage, Affinity Publisher. Avant, j'étais habitué à InDesign. Donc, là, c'était totalement autre chose. En d'autres termes, ça a été une ride avec des expériences absolument géniales.
Oui, puis si on se retrouve un peu un peu comme avec la série elle-même, où on voyait un peu, d'une certaine façon, ton apprentissage de la série au fil des tomes, puis qu'on sent la maîtrise du trait, dans le fond, grandir tome après tome après tome. Autant, en parallèle, on peut dire que là, l'expérience aussi d'auto-édition commence à grandir. Tu as commencé même à offrir un peu d'atelier là-dessus, parce que, veux, veux pas, c'est aussi une expertise qu'il faut développer, un apprentissage qui devient de plus en plus nécessaire, et qui est permis aussi, j'ai l'impression, par le nouveau contexte actuel, par les médias sociaux, par le web, où on peut aller de différentes manières chercher son lectorat, le rejoindre, dialoguer avec lui et lui offrir des productions.
Absolument. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est de justement le fait de noter l'évolution du trait. Il y a une espèce de confiance que je n'avais pas nécessairement remarqué tant que je n'avais pas les quatre chapitres mis un à côté de l'autre. Le premier, il est ce qu'il est, le deuxième, le troisième également. Jamais je vais retoucher ces tomes-là d'une façon ou d'une autre, parce que j'ai pas envie de faire de moi un George Lucas, là. J'ai pas envie de rajouter des Stormtroopers en arrière. J'ai juste l'impression que c'est comme si j'invite le lecteur, en même temps qui lit la BD, ben je l'invite à voir le processus. Un peu comme quand on feuillette le premier Scott Pilgrim de Brian Lee O'Malley, on voit que le trait d'ancrage, tout ça, c'est pas aussi, admettons, affiné que rendu à la dernière production. Puis là, je vois le fait aussi que d'avoir pris 3 ans pour faire le chapitre 4, il y a une bonne différence entre le 3 et le 4. Puis, ben, ça m'a donné à penser que dans les prochains tomes, ben, il y a fort à parier que ça va demander à peu près le même temps, étant donné que, ben, premièrement, je me sens encore plus satisfait du résultat. Je suis encore plus fier d'offrir ça au lecteur. Et le fait de, justement, voir le lectorat grandir, de toujours être là, malgré le temps que je lui demande pour produire une BD, ben ça me donne envie de le remercier de cette façon-là, en lui offrant toujours le meilleur de moi-même. C'est-à-dire, j'ai toujours le même défi depuis le chapitre 1, mais ça se concrétise à chaque fois. Et surtout dans le chapitre 4, je me disais, si j'ai pas de fun, je le fais pas. Je prends une pause, que ce soit une pause d'une journée, une semaine ou un mois, même 2 mois. Ça m'est déjà arrivé de pas toucher à la BD pendant 2 mois et rester dans la tablette graphique sans que j'y touche. J'ai rouvert ça 2 mois après, puis j'ai fait « OK, là, j'ai des bonnes idées. Là, c'est le fun. Là, je recommence. » Donc, ça me permet d'avoir l'impression, à tout le moins, que quand je recheck de temps en temps les pages, je me dis « Ah, je me souviens, j'ai eu du fun à ce moment-là, puis j'espère que les lecteurs vont pouvoir capter un peu un sens de ce fun-là. » Et justement, le fait que tu mentionnais les ateliers, oui, il y a eu des ateliers, il y a eu au lancement du Comic-Con, il y a eu une conférence, puis j'ai commencé d'ailleurs à me faire une petite idée de ce que je veux comme cheminement à côté de ça, c'est-à-dire j'aimerais ça inspirer des nouvelles artistes à suivre là-dedans. Peut-être pas nécessairement à aller dans la BD indépendante, mais à devenir eux-mêmes des auteurs qui puissent éveiller en eux et en elles quelque chose qui, essentiellement, vient les chatouiller depuis un certain temps, une espèce de passion. Puis, à quelque part, j'ai eu la chance, dans le temps que Berbère existait, d'avoir un ancien éditeur qui, lui, s'est intéressé très tôt à ce que je faisais. Et ben essentiellement, ce que je veux, c'est de redonner, donner cette chance-là à des futurs auteurs. C'est-à-dire, il y a des gens qui pourraient dire que je vais créer ma propre concurrence. Moi, je vois ça comme étant, ben, je crée des espoirs pour demain.
Et si on remonte ce que tu mentionnais, ça fait 5 ans que le premier tome du Bouddha brisé est arrivé. Donc, pour ceux qui viennent d'apprendre peut-être l'existence de cette série-là, donc si on présente peut-être d'entrée de jeu un peu l'esprit général de la série, c'est basé sur ce que tu as appelé la dissociation. Donc, l'idée un peu qu'on a une petite voix des fois qui nous parle, mais des fois, cette petite voix-là, ben, elle existe un peu pour vrai. Et dans le contexte du Bouddha brisé, on passe de l'abstrait à un concret très clair.
lumière où, justement, parfois, dans certains cas, dans certaines situations, eh bien, cette petite voix-là va devenir une personne à part entière qui va en venir à prendre naissance à partir de l'être qu'elle occupait auparavant. Donc, si je résume les grandes lignes.
Oui, on peut dire ça comme ça. C'est d'ailleurs une grande métaphore qu'on peut voir ça, une métaphore sur la crise de la trentaine, la recherche identitaire, artistique, notre place dans le monde. Et tout ça sous les traits d'une espèce de relecture du mythe de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, étant accepté que cette fois-là, ben Dr. Jekyll peut interagir avec Mr. Hyde et voir qu'est-ce qu'il y avait en dedans de lui, qu'est-ce qu'il a nourri pendant tout ce temps-là. Dans ce monde-là, essentiellement, ça veut dire que n'importe qui peut donner naissance à quelqu'un.
Oui, puis c'est un peu de dire, dans le fond, puis j'imagine que ça vient un peu de l'idée... Qu'est-ce qui arrivait si à un moment donné, je prenais mes doutes, je prenais mes vulnérabilités, je prenais tout ce que je perçois comme étant des freins, qui ne sont pas nécessairement, mais que je perçois comme étant des freins, et que je créais une part de moi-même qui était complètement exempte, dans le fond, exact. De ces éléments-là?
Tout à fait. C'est une des choses qui m'a le plus inspiré pour, justement, ça paraît peut-être c'est pas évident, du moins ça ne l'est pas devenu pour moi avant la production du chapitre 4, mais je me suis beaucoup inspiré, j'ai été énormément influencé de Fight Club de David Fincher, étant donné qu'on a quand même un personnage qui, spoiler pour un film qui a 22 ans, on a un personnage qui essentiellement se parle à lui-même, mais dans une version qui est totalement anarchiste, qui est totalement libre de faire ce qu'il veut quand il veut, avec qui il veut, donc il crée un certain chaos. Le Bouddha brisé, c'est quelque chose de relativement similaire, excepté qu'ils n'ont pas besoin de se battre en secret. Ils font ça dans la ruelle.
Et dans le fond, tu le disais au départ, donc il y a 5 ans et même avant, parce que c'est un projet que tu traînes avec toi depuis longtemps, et je mets l'emphase sur le longtemps là-dessus, qui se développe. C'est né un peu, je veux dire, à un moment donné, on voit, on prend conscience de ses doutes, des écueils que ça amène, et j'imagine qu'on se dit aussi, même comme individu, à un moment donné, ce fantasme-là de la version de nous qu'on pense idéale, on finit par l'avoir aussi.
Oui, tout à fait. Ben moi, personnellement, il y a eu une période dans laquelle, pendant à peu près entre 10 et 14 ans, j'étais dans une dépression. Et cette dépression-là m'a amené littéralement à toucher le fond, puis à un moment donné, à en remonter un peu. Puis c'est au moment de remonter que je me suis rendu compte à quel point ce que je faisais auparavant, c'était intéressant en termes de dessin et tout ça, mais ça n'allait jamais plus loin qu'un équivalent de fan art. Puis, je sentais qu'il y avait quelque chose en dedans qui voulait sortir, qui voulait s'adresser au lecteur, lui demander « Est-ce que vous aussi, vous pensez ça? » Donc, le Bouddha brisé a commencé à prendre naissance en 2011, il y a déjà 10 ans, avec des esquisses ici et là d'un personnage qui était une version un peu, je dirais, plus grunge de moi. Et avec le temps, jusqu'en 2014, quand les idées se sont cimentées, le 8 août 2014, ça a gardé un certain cachet, puis à un moment donné, c'est devenu avec une allure manga, étant donné que je trouvais que c'était plus intéressant de le raconter sous cet aspect visuel.
Et après ça, de chapitre en chapitre, et d'où l'intérêt, évidemment, si vous tombez sur la série, de reprendre au premier, ça se pile, évidemment. Il y a l'angle interpersonnel, les relations de ce personnage-là qu'on suit, qui est au cœur du récit. Mais, et on le voit d'autant plus, j'ai l'impression, au chapitre 4, où on élargit un peu la mythologie. Il n'y a pas juste Alex qui a les enjeux. Il y en a d'autres qui vivent cette dissociation-là. Il y a des bureaux là-dessus. Là, subitement, dans le fond, j'ai l'impression qu'avec le chapitre 4, ton univers vient de sortir un peu du régional, vient de sortir du très personnel pour ancrer ce personnel-là dans quelque chose de plus large, au bout du compte.
C'est totalement exact. Pendant longtemps, je me suis demandé si c'était possible de faire une série de BD autour uniquement d'Alex, et je trouvais que ça n'avait pas nécessairement de sens parce que Alex est un personnage qui, comme la plupart des personnages, est limité par son champ de vision, ses goûts et tout ça, et la série ne s'en va pas là-dedans. C'est-à-dire, pendant les 3 premiers chapitres, on a suivi Alex dans ses doutes, dans ses moments les plus sombres, les plus durs. Et le chapitre 4, il en rajoute une couche en expliquant un peu plus. Mais à partir de ce moment-là, il faut que le récit qu'il grandisse, qu'il élargisse ses horizons. Parce que, essentiellement, ce dont je veux traiter dans les futurs tomes, c'est littéralement de parler des conséquences que tout ça a. Parce que quand on est dans une dépression, essentiellement, ben ça a des impacts sur les gens qu'on connaît. Ça peut en avoir en positif, ça peut être en négatif. Mais là-dedans, ce que je veux, c'est de montrer qu'est-ce que ça va être « at large ». Quand on va être rendu au niveau de la ville, même à la limite, peut-être au niveau de la province, parce que je travaille sur les scénarios des 5 à 8 en ce moment, voire même le 9, et quelque chose me dit que la plupart des lecteurs ne s'attendront pas nécessairement à ce qui s'en vient.
Oui, c'est comme des pivots qu'on fait, dans le fond, ou un peu comme dans certains films, je pense toujours à Cabin in the Woods, dans le fond, dans l'idée de changer le récit, en fait, ou de changer le spectre ou la perspective du récit. Évidemment, on reste avec un héros qu'on accompagne, qu'on suit, mais au fur et à mesure que lui aussi, sa perspective grandit, bien, la nôtre s'élargit aussi. Oui. Et pour l'auteur, j'imagine que ça amène aussi des nouveaux terrains de jeu, parce qu'à la longue, à force de tourner sur 3, 4, 10 tomes autour de ces enjeux, bien, à un moment donné, évidemment, on aurait t'aurais clos cet arc-là, mais il aurait peut-être manqué la richesse associée avec l'élargissement de la thématique puis les conséquences, comme tu dis.
Exactement. Puis, il y a aussi le fait que quand j'écris des nouveaux personnages, quand j'en crée, ils ont une personnalité propre, ils ont leurs enjeux, ce qui fait que ça peut m'amener à créer un petit pan d'histoire, un story arc léger qui va me faire... me dire « Oh my God, j'avais tellement pas pensé à ça initialement. » Ça enrichit l'univers, ça le rend davantage 3D jusqu'à un certain point, et il y a encore plus de chances que le lecteur puisse trouver un personnage là-dedans qui lui est propre.
Oui, puis en même temps, j'imagine que c'est un défi, puis c'est un peu une pression qu'on se donne, parce que, et on le voyait un peu au fil des 3 premiers tomes, dans le fond, c'était une descente progressive, j'ai envie de dire une descente aux enfers, d'une certaine façon. Dans le 4e, on atteint le fond du trou, et la question, c'est toujours, mais qu'est-ce qu'il y a quand on arrive complètement en bas aussi? Donc, dans son cas, il se laisse aller, il ne va pas chercher d'aide, etc. Et on se retrouvait au 3e tome avec un événement. Bon, je ne veux pas trop en dévoiler, parce que j'aimerais ça que les gens aillent les lire aussi, mais dans le fond, dans le 4e, à quel point, justement, tu savais déjà d'entrée de jeu que c'était ça le fond du trou, ou est-ce que ce fond-là, dans le fond, c'est construit un peu au fur et à mesure que tu développais l'univers d'Alex dans les 3 premiers?
J'aurais tendance à dire que c'est un mélange des deux. Il y a une partie de moi qui savait un peu où est-ce que ça s'en irait, puis au fil des réécritures pour le chapitre 4, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, c'était rendu compliqué pour rien. Il a fallu que je simplifie un peu les choses. Je ne sais pas si... Ben, je t'en avais peut-être parlé autrement là, quand je t'avais remis la BD. Il y a eu énormément de réécritures. C'est probablement le scénario que j'ai le plus réécrit. Des 43 pages que dure la BD, je crois initialement qu'il n'en reste aucune d'originale.
Oui, quand même.
Oui, si on compare à la toute première BD qui, elle, il y a peut-être 3 ou 4 cases qui ont changé entre la première version et la dernière, là, tout a changé. Le fond de l'histoire reste le même, le développement reste sensiblement le même, mais la finale est vraiment ce qui a le plus changé. Là, les 12, 13 dernières pages, elles ont complètement été remaniées au moins une dizaine de fois. J'étais totalement insatisfait, et c'était justement en interchangeant un personnage pour un autre que je me suis rendu compte, non mais là, c'est là qu'on a quelque chose. Là, on s'en va chercher de la sève. J'avais fait j'ai une couple d'amis qui, eux, sont devenus mes lecteurs test, si on veut, et ils sont peut-être pas nécessairement des personnes qu'on pourrait appeler professionnelles de la BD, au contraire, mais leurs avis comptent énormément pour moi. Il y a un de mes amis, ça fait à peu près 27-28 ans que je connais. Lui, son avis, quand il va le donner, il va pas mettre des gants blancs, il va pas y aller avec des fleurs. S'il me dit que c'est pas bon, c'est pas bon. Et moi, c'est ce que je veux de lui, c'est qu'il me dise absolument qu'est-ce qu'il en est. Et quand je lui ai montré la toute première finale, il a fait « Ah, je suis pas sûr, c'est... Non, j'aime pas. » Et j'ai comme fait « Ok, ben merci. » Là, j'ai pensé pendant une couple de semaines, je me suis dit « Qu'est-ce qui pourrait ne pas aller là-dedans? » Fait que j'ai essayé de réfléchir dans mon coin pour qu'est-ce qui pouvait ne pas aller. Et quand on s'est rejasé, j'y ai demandé par rapport à la finale et il y avait le même point de vue que moi, c'est-à-dire il y avait quelque chose qui devait changer et j'avais exactement pensé à ce point de vue-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai effectué le changement nécessaire qui a amené la finale du chapitre 4 qu'on connaît.
Oui, puis c'est toujours un peu le défi, surtout quand on fait des séries comme ça où tu le dis, il va peut-être avoir un 2 ans entre chaque tome.
3.
Donc, faut que tu nous laisses, dans le fond, sur quelque chose qui va préparer le terrain pour le prochain, mais exact. En même temps, comme lecteur, puis ça, c'était le cas des 3 précédents aussi, il y a une satisfaction, tu as l'impression d'avoir fini une arc. Ouais. On est arrivé, il y a quelque chose qui est réglé, positivement ou négativement, mais il y a quelque chose qui est réglé,
ouais.
Et ensuite, on ouvre la porte pour la suite. Donc, c'est un peu de trouver, j'imagine, cet équilibre-là entre ce qui s'en vient, mais entre permettre au lecteur de fermer des portes puis de ne pas faire un peu comme dans des mauvais scénarios puis d'ouvrir trop de portes qu'on, ouais. Éventuellement, n'aura plus l'espace ou la capacité de fermer non plus.
Exact. Puis, dans le 4e chapitre, j'étais très conscient, en réécrivant le scénario, de plusieurs fusils de Tchekhov que j'avais amorcés dans les 3 premiers. Je me disais, OK, j'ai parlé de ça, ça serait bien que je puisse clore ça ici, parce que dans les chapitres suivants, je ne sais pas si je vais avoir le temps d'en parler. Donc, mon temps était relativement, j'ai envie de dire, pressé entre ce que je dois clore et ce que je dois ouvrir. Donc, je me suis rendu compte que les finales de mes chapitres sont toujours une porte ouverte vers le suivant. Ça peut finir là, tout comme ça peut continuer, c'est selon. Mais j'ai toujours, comment je dirais, par rapport à ça, mes finales qui peuvent être un peu toujours ouvertes, j'ai toujours eu des professeurs en français, je me rappelle, au primaire, au secondaire, qui aimaient beaucoup les fins ouvertes. C'est-à-dire qu'on clôt certains sujets, mais on laisse la porte ouverte pour une discussion. J'ai toujours trouvé ça intéressant et aujourd'hui, ben, je me suis dit, ça pourrait être intéressant parce que pendant le 2-3 ans que ça va demander entre les chapitres, les gens, les lecteurs vont pouvoir regarder ça et se dire, mais qu'est-ce qui va se passer après?
Extrapoler, exact. S'amuser, aller voir aussi. Puis avec l'assurance que les portes que tu ouvres, ben, tu vas faire l'effort de les refermer dans un délai raisonnable.
Jusqu'à un certain point, oui.
Et j'imagine que de ton côté aussi, ça devient un peu de l'organisation parce que tu l'as dit, il y a pratiquement 10 d'années depuis l'idée initiale du Bouddha. Il y a des éléments qui sont passés. Donc, est-ce qu'on en revient peut-être de fois en fois à relire un peu les tomes précédents pour s'assurer, j'imagine, que ça se tient? Est-ce qu'on a des index de « OK, mais voici les éléments, les portes que j'ai ouvertes, voici où je vais m'en aller ». Moi, je veux dire, dans ma tête, chez Simon Bergeron, chez SB, il y a un mur de post-it là, qui suit le récit. C'est probablement plus informatique qu'autre chose, mais...
Non, c'est drôle parce que je trouve ça fascinant comment les gens peuvent imaginer comment j'ai plein de post-it ou un gros babillard, alors que la plupart de ces choses-là sont dans ma tête. J'ai comme un babillard mental avec tout ça, et essentiellement, c'est quelque chose qui est appelé à, effectivement, comme tu l'as si bien dit, je dois le prendre en compte et je dois, si je veux, je dois l'adresser dans les prochains tomes. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Et je me rends compte avec le temps que les chapitres 2, 3 et 4, de la manière que je les ai écrits, je ne pourrai plus faire ça de la même manière, étant donné que il me faut dorénavant passer à la vitesse supérieure que j'appelle, c'est-à-dire je dois vraiment scripter les choses au point où je me dis « Est-ce que ce détail-là, il est bien écrit? » Parce que ce que j'avais essayé avec le chapitre 1, essentiellement, ça a été d'écrire un script. J'avais été satisfait, c'était bien. Mais j'avais trouvé à l'époque le procédé un peu laborieux pour moi. Pas que c'était mauvais ou quoi que ce soit, c'est juste que j'avais envie d'expérimenter avec une autre façon de faire. Puis ma façon, pendant les 3 derniers chapitres, a été d'écrire une sorte de résumé sur 7 ou 8 pages et de le séparer en paragraphes, chaque paragraphe étant un sujet dont je vais parler. Et ensuite, tout ce qui me reste à faire, c'est combien de pages est-ce que ça peut durer? J'évalue mentalement, admettons, tel sujet doit durer 8 pages. On imagine Alex qui s'en va consulter. Ben, admettons ça doit durer combien de temps? Oh, 4 pages. Là, j'essaie d'imaginer dans ma tête, est-ce que le rythme est bon? Donc, c'est beaucoup une sensation, c'est un feeling, mais rendu à la fin du chapitre 4 d'effectuer, je me rends compte que ce processus a une limite. Et si je veux raconter l'histoire et fermer le plus de portes possible quand on va être rendu à la fin, ben cette technique-là, elle a trouvé son paroxysme au chapitre 4 et je ne peux plus l'utiliser à partir du 5 car c'est une manière, je ne veux pas dire que c'est, comment je dirais, je ne veux pas dire que c'est amateur, mais c'est pas une méthode que je pourrais considérer comme étant correcte pour raconter une histoire compliquée comme le boudet brisé s'en vient.
Tu parles d'histoire linéaire, puis exact. Là, tu vas multiplier les lignes. Donc...
C'est ça. Parce que, justement, tu le disais tantôt, on s'apprête à élargir les horizons dans le chapitre 4. Là, imagine, ça, c'est le 4. Dans le 5, là, ça va changer encore plus. Je ne raconterai pas grand-chose de ce qui se passe dans le 5, mais
on ne racontera pas grand-chose de ce qui se passe dans le 4 non plus.
Non plus. Sincèrement. Mais tous les albums précédents vont avoir un impact sur le suivant. Le 4 ne fera définitivement pas exception à la règle. Et en même temps, il va falloir ouvrir les vannes et vraiment montrer le monde dans lequel ces personnages évoluent, parler de la condition humaine, parler du traitement de cette condition-là, comment est-ce qu'elle est perçue, comment est-ce qu'elle est vue.
Et tout ça dans le contexte quand même d'un récit, parce que là, ça peut sembler lourd, mais ça ne l'est pas non plus. C'est un récit c'est un récit d'action, c'est un récit un peu thriller aussi. Ouais. Dans le fond, on est un peu dans X-Files ou dans ce type d'univers-là, à la limite aussi. Donc mais en même temps, on est aussi dans un récit très personnel, de remise en question. Donc, on joue un peu avec ces niveaux-là. Ouais. Et j'imagine que la question de voir comment les rendre d'un côté, donc à travers les dialogues, ça passe beaucoup par là aussi. Donc, trouver des dialogues souples qui sont rythmés avec des personnages que tu réussis à bien caster, dans le fond. Puis, en parallèle, dans une mise en scène aussi qui reste dynamique, parce qu'on m'a toujours dit, dans le fond, il n'y a rien de pire à rendre que des dialogues ou des séquences interrogatoires, comme dans le cadre. Il faut que tu trouves tes plans, ta manière de le présenter. On va dans un hôpital, comment on marche. À travers ça, parle-moi peut-être un peu de ce travail-là. Mm-hmm. Donc, comment tu abordes un peu peut-être la mise en scène, la mise en séquence?
Eh bien, moi, j'ai toujours été un immense fan de cinéma. Ça, je pense que dans la plupart des BD du Bouddha brisé, ça se voit un peu. Je perçois ça souvent comme... J'attaque ça comme un réalisateur, c'est-à-dire... J'ai mes acteurs qui sont dans le décor. J'ai le décor, puis où est-ce que je place ma caméra? Et également, qu'est-ce que ma caméra veut dire? Est-ce que je veux dire que le personnage est totalement dépassé? Est-ce que je veux essayer de signifier le fait qu'il y a un suspense long, sinueux, qui commence à essentiellement polluer la case? Là, c'est là que tous ces choix-là viennent qu'à demander leur attention. Et c'est quand j'en arrive à faire les cases, et c'est pour cette raison-là que mon nombre de réécritures est de 47, c'est qu'il a fallu que je repense énormément à ces choses-là. Il y a une page que tu as sans doute vue. C'est une pleine page. Qui, littéralement, c'est pas un spoiler, c'est un Google Map, littéralement. Ah oui. Celle-là, j'ai galéré pendant des jours à me dire qu'est-ce que je pourrais raconter dans cette case-là. Parce qu'initialement, la page ne devait pas être aussi simple.
Et pour résumer l'action, dans le fond, c'est quelqu'un qui cherche quelqu'un d'autre.
Exactement. C'est un personnage qui en cherche un autre. Et initialement, j'y avais été à la façon un peu Tintin. Dans ma première version. C'est-à-dire qu'il s'en allait à une place, puis il se faisait dire non. Il se faisait dire la même chose à une autre place, puis essentiellement, à un moment donné, il le trouvait. Mais j'ai fait, oh mon Dieu, mais je m'emmerde à lire ça. Je suis le scénariste et je m'emmerde. Alors je me suis dit, mais il y a sans doute une manière de remettre ça à jour, parce que là, à ce moment-là, j'avais littéralement le visage collé contre l'arbre. Je ne pouvais pas vraiment voir la forêt. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais, moi, quand je cherche? Je m'en vais sur Google. J'ai ça.
Oui, puis juste à jouer avec le rythme aussi du récit, avec la manière d'amener, puis de créer des surprises, dans le fond, à travers les éléments. Oups, ça crée une pause, on change un peu le rythme, on vit, entre guillemets, cette recherche-là, puis après ça, on passe à la suivante, ou là, on replonge dans l'action. Donc, on casse un peu le rythme, on se prépare à un autre rythme aussi.
Moi, j'ai été un petit peu trop influencé parfois par Monty Python. Donc, il y a une certaine dose d'absurde qui va arriver d'une case à l'autre qu'on peut ne pas nécessairement savoir quand ça va arriver ni pourquoi, mais ça arrive. Et je me dis souvent, est-ce que ça nuit au récit? Je ne pense pas, donc je me permets ça. Il y a des fois où j'ai même, dans le chapitre 3, j'ai même osé mettre un transformeur. La plupart des gens ne l'ont pas vu. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est que j'ai le droit de faire ça. Pourquoi? Ben, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de mettre de l'absurde, j'ai envie de casser le récit tout en continuant de le raconter. Parce que pour moi, c'est une manière d'aérer un peu la mise en scène, de la faire respirer, quitte à l'alléger un peu. Parce que des fois, je trouve que le propos est tellement lourd en lui-même, parce que traiter de la dépression, de la recherche intérieure, de qui on est, c'est pas joyeux pour tout le monde. Il y a des gens qui s'en sortent relativement bien, mais il y en a pour qui c'est la quête de toute une vie. Et justement, c'est pour ça que je me permets ces petites pauses-là. C'est pour que les gens se disent, dans la vie, il y a ça aussi. Il y a des petits moments de légèreté, de bonheur et d'insouciance.
Oui, puis tu parles de détails. En fait, il y en a un qui m'avait frappé, entre autres, c'est le fait qu'il y a quand même beaucoup de cases et beaucoup de segments où on est en léger déséquilibre.
Oui.
C'est où l'action est juste assez pour qu'en lecture, on soit comme, justement, qu'on ressente ce déséquilibre-là pour l'œil. Un peu à l'image de ce que vit le personnage, qui lui est complètement perdu, dans le fond, dans tout ce qui se passe dans l'album, au bout du compte.
Ben oui, puis l'univers dans lequel ça se passe également, je voulais qu'il soit un peu en déséquilibre. Étant donné le concept qui est totalement impossible dans notre monde, du moins, j'ai pas lu tous les livres d'histoire et je connais pas tout. Espérons-le. Mais parce que ça serait affreusement douloureux. Mais j'imagine que c'est pour moi nécessaire de faire ce petit décalage-là, de montrer une ligne un peu plus oblique que ce qu'on est habitué de voir, parce que essentiellement, si j'avais fait ça dans un monde totalement inconnu, ben je pense qu'on aurait perdu un certain ancrage avec la réalité. Oui. Et le fait de le mettre dans le monde réel, du moins semi-réel, avec une pente légèrement oblique, ça permet de s'identifier au personnage plus facilement.
Et dernier élément, dernier clin d'œil qu'on va faire à ce chapitre 4, tu parlais de la séquence finale, entre autres, là, je ne rentrerai pas dans le détail non plus sur le quoi, mais on peut détailler sur le fait que c'est un combat.
Oui.
Tu parlais de tes influences manga. Oui. Ça c'était pas tant présent dans les quatre premiers tomes. En fait, on sentait un peu dans le trait, dans certains choix. Mais là, j'ai l'impression que le dessinateur s'est éclaté un peu dans la mise en scène d'un combat qui devient aussi un peu le sommet du crescendo de cette descente-là que subit ton personnage. Donc, ça finit dans des coups de poing quand même assez fulgurants. Là.
Ah oui, tout à fait. C'est quelque chose que j'ai longtemps, je dirais, que j'ai laissé mijoter longtemps. Dans les trois premiers, il y a quand même plusieurs lecteurs qui m'ont demandé « Est-ce que c'est normal que ce soit aussi introspectif que ça? » Puis je leur ai dit « Oui, c'est normal. Ça arrive. » Puis quand j'ai eu la fin du chapitre 4 en tête, que c'était clair qu'il allait se passer ça, je me suis dit « Là, je sors tous les canons. Je fais feu de tout bois. Je ne laisse rien passer. » C'est-à-dire, j'ai la possibilité qu'un personnage place un coup, il va le placer là. Est-ce que ça va être un coup honnête ou un coup malhonnête? On s'en fout. Le personnage va faire ça. On est rendu dans un moment où tous les personnages qui sont impliqués dans la scène sont désespérés. Autant un pour une raison qui lui est propre que l'autre pour essayer de défendre son point de vue. Donc, essentiellement, c'est une. J'ai envie de dire que c'est un catharsis qui m'a fait vraiment du bien. Ça m'a. Après avoir lu Dragon Ball, One Piece, toutes les sortes de mangas qui m'ont influencé pendant des années, je pense également à Bakuman, et qui est selon moi un de mes favoris à vie, ainsi que Death Note. C'est beaucoup de mangas qui ont des combats qui sont différents de ce qu'on peut imaginer. J'ai souhaité essayer d'en revenir un peu à mon fun que j'avais quand je jouais au premier Street Fighter sur la Super Nintendo. J'essayais d'avoir du fun, mais en même temps, de raconter l'histoire.
Exact, parce qu'il y a une gravitas importante dans ce qui se passe. C'est un combat, on parlait de paroxysme, évidemment, c'est un combat presque intérieur, mais extérieur. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui se jouent, et c'est sous la pluie, avec oui. des gros plans, avec une chorégraphie. Donc, ça, encore là, quand on parle aussi de revision, de trouver la bonne séquence, la bonne approche, en plus avec la pluie par-dessus qui vient un peu teinter les relèves, ça doit être extrêmement plaisant, mais assez difficile pour s'assurer que ça reste très souple aussi.
J'ai même un moment où j'ai une petite anecdote à raconter par rapport à la création de une de ces pages-là. C'est que la beauté de la chose quand on travaille dans un domaine digital, c'est qu'on est en plusieurs couches. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que mes gouttes de pluie étaient sur le même calque que l'ancrage et je me suis dit « Oh my God ». Et en plus, ce qu'il fallait que je fasse à ce moment-là, c'est de faire en sorte que la pluie soit un petit peu plus transparente, qu'on devine un peu plus le trait des personnages à l'arrière, parce que je voulais justement cet aspect de flou. Je voulais rechercher le fait que on est rendu à un moment où les personnages se battent sans nécessairement avoir une réelle bonne raison. Ils le font parce que c'est presque un moment de survie. Ça dépasse un entendement. Et je voulais mettre cette espèce de flou-là avec la pluie, mais je n'avais pas réussi à sauvegarder correctement. J'avais dessiné pendant 3 heures toutes les gouttes de pluie, et je me suis dit, quand je suis revenu pour travailler là-dessus, j'ai fait « Oh non, oh non, 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 faut que je le refasse. » Ce qui m'a demandé 7 heures de correction.
Ah, mon Dieu!
Oh oui, puis... Mais en quelque part, ça a été... C'est quelque chose que j'ai encore un souvenir d'avoir fait. Je crois qu'on était en janvier ou en février 2021 quand j'ai fait ces pages-là. Et j'étais en train de me dire « Oh mon Dieu, est-ce que je vais devoir refaire l'ancrage au complet? » Je paniquais. Ma copine me regardait, elle disait « Prends ton temps, là, va prendre une marche, puis tu reviendras après. » Puis j'ai fait exactement ce qu'elle m'a dit et à ma grande surprise, elle avait raison. J'ai trouvé une solution. J'ai juste refait l'ancrage, j'ai effacé le reste, et voilà. Ça s'est fait en 7 heures, mais ça aurait pu être beaucoup plus long si j'avais été selon ma première idée, c'est-à-dire de retravailler l'ancrage au complet. Donc, grand merci, Jessica, ma copine. Elle a su comment me faire dédramatiser un peu de la situation pour avoir les yeux en face des trous et retrouver un fun dans ce combat-là qui va amener beaucoup d'éléments qu'on ne peut imaginer dans le chapitre 5.
Et évidemment, donc je mentionne, donc chapitre 1 à 4, on peut dire que c'est un peu un premier cycle du Bouddha oui. brisé qui se complète, un cycle bien évidemment qu'on vous encourage à lire à partir du premier si vous n'avez pas entamé, sinon ben d'un coup que vous ne le saviez pas, le quatrième est disponible depuis cet automne, est disponible principalement par commande directe, SB?
Commande directe, j'ai un Square Site, mais la plupart du temps sur ma page Facebook, les gens peuvent me rejoindre, donc c'est super facile, super agréable et c'est rapide.
Donc la page Facebook, on cherche le Bouddha brisé essentiellement.
Voilà, le Bouddha brisé BD, ça va se trouver facilement et en m'envoyant un message, ils vont pouvoir me dire « Ok, est-ce que je peux choisir tel, parfait, je leur dis c'est combien ». Puis, il m'envoie ça via paiement direct, Internet Interac. Là. Bref, ça se fait relativement facile aujourd'hui.
Alors, ben voilà. Donc, par le biais de Facebook ou du web, c'est facile à retracer. Et ben, je rappelle donc, chapitre 4 qui est arrivé cet automne. Ça s'appelle « Le Bouddha brisé ». C'est de SB. Merci.
Ben merci à toi. À la prochaine.
Oui, à la prochaine.
Et bien voilà qui conclut cette édition de La Vie en BD. Je vous rappelle que l'ensemble des émissions sont disponibles sur lavieenbd.com. C'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine.